Oui, merci Marc. Merci Monsieur le Président, pardon. Nous allons vous montrer beaucoup d'images, hein, comme ça rendra le propos sans doute plus agréable. On a, avec ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'était des présentations d'expositions, si j'ose dire, habituelles et classiques. On met au point un projet, on met au point un discours scientifique, un concept, comme on dit maintenant. Et puis, on en déduit un certain nombre d'objets qui vont illustrer cela. On demande le prêt de ces objets, qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas. On a pu le voir dans quelques cas. Et puis ensuite, on fait l'exposition. Dans notre cas, c'est un peu différent. C'est-à-dire que nous avons des masses d'objets qui nous arrivent. Et quand je dis des masses d'objets, ça peut être plusieurs milliers d'objets dans une seule fouille. Et ces objets, ben, évidemment, par essence, on ne les connaît pas avant de les avoir découverts. Et du coup, il faut que le discours soit adapté en fonction des objets et que l'on puisse en tirer une exposition. C'est un peu le processus à l'envers, si je puis dire. Alors, ça se passe donc au musée départemental d'une manière assez efficace, si je puis dire, parce qu'on est nombreux d'abord, on est près de 60, et puis ensuite parce que nous avons en notre sein des équipes qui permettent de répondre à cela. Nous avons notamment, et c'est un cas de figure assez rare dans notre pays, au sein même de l'établissement et sous la même direction, donc, des conservateurs et des médiateurs, c'est bien le moins dans un musée, mais aussi des archéologues. Nous avons des archéologues qui sont fonctionnaires donc chez nous, qui peuvent travailler aussi bien pour les fouilles terrestres que pour les fouilles sous-marines, ou subaquatiques, dans le fleuve, bien évidemment. Donc, à partir de là, ces gens sur le terrain vont accumuler de la matière, certes matérielle, les objets, mais vont accumuler aussi de la matière intellectuelle pour préparer la publication et pour pouvoir donner lieu, bien sûr, comme il se doit, à la restitution auprès des scientifiques. Mais comme ce sont des gens de nos équipes, eh bien, il y a la possibilité pour toutes les autres équipes du musée, et notamment celles que dirige Fabrice Denise, les équipes de médiation, de prendre à la source, en quelque sorte, l'information et de pouvoir l'amener, selon les normes en usage, eh bien, auprès des publics. Tout à l'heure, on a évoqué avec les collègues de l'INRAP la difficulté qu'il pouvait y avoir parfois à obtenir des prêts de conservateurs de musées. Monsieur Payeur disait que certains conservateurs de musées avaient l'impression de posséder leurs objets et qu'ils s'en dessaisissaient difficilement. Ça a fait sourire dans la salle à juste titre. Mais nous qui sommes conservateurs et archéologues, je peux vous dire que pour les archéologues aussi, des fois, c'est difficile de se dessaisir des objets. Et quelquefois, nous avons demandé la contribution de certains archéologues qui répugnaient à nous donner la matière première de leur recherche. Ou alors, ils souhaitaient être maître d'œuvre complet de l'exposition, ce qui n'est pas possible parce que l'exposition d'un archéologue, eh bien, ça peut être formidable, mais ça peut être aussi une collection de profils de céramique attique du IIIe avant et qui intéresse 10 personnes au monde, dont lui. Et puis, c'est un peu dommage quand même de mettre des fonds publics là-dedans. Donc, ce n'est pas, vous l'avez bien compris, pour faire une espèce de polémique ou pour vous faire sourire, bien évidemment pas. Nous sentons archéologues, nous sommes archéologues, nous sommes conservateurs de musées, mais c'est pour montrer que chacun a sa logique, chacun a sa spécificité, et parfois, bah, évidemment, pour faire rentrer tout ça dans le même moule, c'est pas bien évident. Chez nous, c'est plus facile, puisque les équipes sont les mêmes, sous la même direction et sous la même administration. On a aussi l'autre grande fonction, si je puis dire, eh bien, c'est celle des restaurateurs. Et dans notre équipe, nous avons aussi des restaurateurs, soit des restaurateurs extérieurs qui viennent travailler dans nos murs à façon pendant 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, soit, comme cette jeune femme que vous voyez en train de restaurer un des bronzes qui a été trouvé dans le fleuve, soit des équipes en interne qui travaillent notamment les mosaïques et les céramiques. Et voilà notre laboratoire de restauration des mosaïques. Là aussi, ça permet d'avoir un dialogue constant, immédiat, et de retranscrire au fur et à mesure les choses avec des équipes en interne. Au passage, je vous montre cette image parce que c'est la restauration que nous avions faite d'une mosaïque qui vient de Lambèze en Algérie. Et on parlait dans les journées précédentes des prêts et des difficultés qu'on pouvait avoir parfois à obtenir des prêts. Eh bien, pour nous, c'est un bon système parce que nous avons mis au point un système de troc. nous proposons à certains musées eh bien, de restaurer certaines œuvres en interne, de former leurs jeunes professionnels et en échange eh bien, d'avoir des prêts pour certaines expositions. Et cette merveilleuse mosaïque de Lambèze avait donné lieu à la formation de 4 jeunes gens, 4 restaurateurs donc venant de Cherchel, en Algérie, et le ministère des Affaires étrangères algérien avait eu la gentillesse de nous prêter de nombreux objets qui n'étaient jamais sortis du pays et qui avaient pu être présentés dans le cadre de l'exposition Algérie antique au moment de l'année de l'Algérie en France. Alors, bien évidemment, on n'est pas capable de faire tout seul quand même, j'aurais de l'outrecuidance à vous le dire, ce qui fait que nous avons pas mal de partenariats avec l'INRAP, par exemple. On a signé un partenariat avec l'INRAP, on a signé un partenariat avec le CNRS, avec le Centre Camille Julian d'Aix-en-Provence, avec l'université, ou avec le DRASM, dont vous voyez le vieux bateau amiral, l'archéonaute, hein, qui a été remplacé depuis par l'André Malraux. Et ces fouilles eh bien, nous ont permis d'avoir cette interaction, vous voyez, avec des équipes spécialisées extérieures, nos archéologues à nous participant à ces fouilles. On vous disait qu'il était nécessaire d'avoir de la matière. Eh bien voilà, avec le fleuve, c'est tout à fait extraordinaire. Vous avez là la photographie d'une après-midi de fouilles. Une après-midi de fouilles. C'est-à-dire que, peut-être pour les gens qui s'occupent de peinture du 18e, ça ne dit rien, mais les archéologues dans la salle, à mon avis, ont compris ce que ça veut dire, c'est-à-dire des milliers d'objets qui sortent. Alors, quand on montre le fond du fleuve, ben, on comprend mieux. Alors, bon, vous avez la petite la petite anguille pour le fun, comme on dit, mais vous avez une épaisseur incroyable d'objets. Vous pouvez reconnaître ici une lampe à huile, vous pouvez reconnaître des objets entiers qui sont là. Il y a une épaisseur de 3 à 4 mètres d'objets enchevêtrés sur 30 à 40 mètres de large et sur 300 à 400 mètres de long. C'est-à-dire que, littéralement, ce n'est pas une figure de style, il y a des millions d'objets dans le fleuve. La seule fouille de l'an passé a donné 9850 objets entiers qu'il a fallu intégrer dans l'inventaire. Alors vous pensez bien que la question de récollement pour nous, c'est un vrai problème. Parce que chaque année, on a l'impression d'avoir terminé, et chaque année, on voit que 2014 approche et qu'on rentre des objets à tout moment. Donc c'est un vrai problème. Quelques images pour vous montrer la qualité de ces objets. Hein. La plupart d'entre eux sont neufs. Voilà, un petit vase, peu importe la typologie, hein, donc qui se retrouve là. Vous avez cratères décorés, enfin voilà. Et puis aussi des objets qui peuvent toucher l'histoire de l'art. Hein, voilà, une tête du dieu Mercure ou ce superbe portrait au moment de la photo donc dans le fleuve lorsqu'il était en train d'être découvert. Et puis le même une fois restauré. Ou superbe statue de Neptune une fois remontée, même des bronzes, comme cette statue en bronze, enfin ce bas-relief plutôt en bronze de Victoire, et là, même une fois restaurée. Certains d'entre vous ont vu peut-être ces objets dans l'exposition soit à Arles, soit au Louvre. Alors, pour pouvoir enfin présenter l'archéologie en temps réel, presque, si je puis dire, il faut aussi de l'espace. Et notre musée a été dessiné de telle manière que l'on puisse utiliser les espaces. C'est un peu, si vous me pardonnez la métaphore aéronautique, c'est un peu un musée à géométrie variable. Ce qui fait que, voyez par exemple, toute cette aile des sarcophages a été prévue dès l'origine par mon maître Jean-Maurice Rouquette et moi-même pour que l'on puisse enlever ces sarcophages et accepter au sein même du musée des expositions exceptionnelles. Et c'est pour cela que, voilà, par exemple, un sarcophage, vous arriverez peut-être à voir dessous. Vous voyez, il est habillé par une plaque de métal dessous et les socles ont été dessinés de telle manière qu'ils puissent être facilement palettisables. On vient avec un chariot élévateur, on soulève le sarcophage protégé, on l'amène dans le reste des collections, le musée est bien pourvu en espace, et ainsi une partie de la collection est-elle mise en réserve, et ainsi on a tout de suite de quoi présenter 1000 m² d'exposition, notre salle habituelle étant seulement de 250 m². Donc ça, c'est très précieux. Et cet espace que vous avez vu juste à l'instant eh bien, a pu être enlevé de ces... Enfin, on a pu, pardon, enlever les sarcophages pour pouvoir présenter l'exposition Rodin et l'Antique. Alors cette image n'a rien à voir avec le propos, c'est simplement la page de pub pour que vous puissiez venir voir cette magnifique exposition à Arles, c'est gratuit pour les étudiants, et où vous avez l'œuvre de Rodin présentée de cette manière. Nous n'avons pas trouvé les Rodins en fouille, ils nous ont été prêtés par de nombreux musées dans le monde. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Fabrice. Voilà une image donc, dans le même lieu, cet espace où se trouvent les sarcophages habituellement. Voilà donc une image de cette exposition, César et les secrets du Rhône, qui a été présentée presque en direct au moment des fouilles, à telle enseigne que certains objets sont arrivés un mois avant d'être mis dans la vitrine, j'ose presque dire encore mouillés, mais tout à fait. Et ce qui fait que nous avions prévu dans certaines vitrines des objets qu'on a enlevés parce que d'autres objets plus intéressants étaient arrivés et ils n'ont pas pu être mis dans le catalogue, hein, vous vous en doutez. Voilà pour vous montrer la simultanéité de la chose. Alors je passe la parole tout de suite à Fabrice.
À mon tour donc, bonjour à tout le monde, merci aux organisateurs, merci à vous d'avoir résisté jusqu'au bout. Donc, mon propos va être très, très pragmatique. Je vais faire un petit, un petit focus sur deux expositions d'archéologie assez récentes et qui, chacune, à notre sens, traduisent des problématiques singulières d'exposition d'archéologie. Donc, l'exposition à laquelle Claude faisait justement allusion, l'exposition César, le Rhône pour mémoire, que nous avons ouverte à la fin de l'année 2009, et une exposition dossier qui s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global d'une opération scientifique Arles-Rhône 3. Alors, quelques généralités qui ont été vues peut-être ces deux derniers jours, mais je pense que c'est intéressant de revenir dessus. Rappeler que bon, l'exposition est effectivement un moment singulier, une opération particulière, mais qui s'inscrit bien dans un projet scientifique et dans un projet de communication et de médiation global. Nous verrons ça plus particulièrement dans mon deuxième chapitre. L'exposition est le fruit, on l'a vu tout à l'heure admirablement avec l'exposition des Gaulois, dans le cadre d'une coopération avec plusieurs expertises comme ça qui se mélangent, qui se rencontrent et puis qui se forment. Il y a des transferts de compétences et des transferts de connaissances qui opèrent. Et de la fouille au musée, c'est ainsi que l'on résume cette façon de travailler. Et puis l'exposition complète d'autres formes de diffusion. J'insisterai tout à l'heure là-dessus. Et nous cherchons effectivement au musée de l'Art antique à intégrer au maximum l'ensemble des équipes, et donc j'ai le plaisir, en tant que responsable du service des publics, d'être associé à toutes les expositions temporaires dès la première réunion, et j'ai même pu donc assurer le commissariat de l'exposition César, dont je vais vous parler maintenant. Alors, dans le musée, il est vrai que nous avons cette richesse de pouvoir articuler une médiation autour des collections, autour de la recherche en train de se faire, et en lien avec un territoire riche de sites archéologiques et de chantiers archéologiques. Donc le premier exemple est celui de cette exposition César, dont les sujets sont riches. Tout d'abord, c'est une exposition bilan. L'objet premier de cette exposition était de revenir sur 20 ans de fouilles, en mer et dans le fleuve. Une exposition donc qui devait à la fois raconter la cartographie des gisements archéologiques dans ce territoire singulier qui est la Camargue, mais aussi à Arles, puisque Claude faisait allusion à ces stratigraphies très importantes qui courent sur plusieurs centaines de mètres, et je vous ai signalé sur cette photographie aérienne, en bleu, eh bien, les zones de fouilles où évoluent depuis une vingtaine d'années les archéologues plongeurs. La profusion d'objets, voilà une photographie prise l'an dernier dans le cadre de notre opération Arles-Rhône 3, et vous avez là quelques jours de fouilles sur ces plateaux, et là c'est seulement la partie des objets qui vont au musée. Évidemment, cette exposition devait aussi rendre hommage au travail des archéologues plongeurs, sans qui, évidemment, nous ne serions pas là pour parler. Donc, je dirais que c'est aussi une exposition qui est à la croisée de l'histoire, puisque nous avions à raconter l'histoire du commerce méditerranéen à Arles, mais aussi une exposition d'archéologie, les techniques de fouilles n'étaient évidemment pas oubliées, mais aussi la mémoire même des archéologues était importante à faire figurer dans cette exposition. Donc archéologie, histoire et mémoire étaient trois notions qui devaient se combiner dans cette exposition. L'aspect extraordinaire aussi de cette exposition, c'est qu'elle avait à faire cohabiter des objets issus de la vie quotidienne des Arlésiens. J'en tiens pour exemple cette semelle de chaussures là, cloutée, et qui devait cohabiter dans cette exposition avec l'extraordinaire captif que vous avez déjà vu tout à l'heure. Une exposition qui ne devait pas oublier la pédagogie sur les courants commerciaux dans l'Antiquité et en quoi la vallée du Rhône était une extraordinaire autoroute où transitaient quantité de biens de consommation. Le traitement des collections aussi, une exposition en temps réel se doit de mettre un coup de projecteur sur les métiers et sur cette chaîne qui consiste en peu de temps finalement à montrer toutes les séquences depuis la découverte de l'objet jusqu'à son soclage et sa présentation dans le contexte de l'exposition. Et puis, nous sommes également très attachés au lien avec notre époque et nous avions proposé à un artiste de venir en résidence. Donc c'est Mark Dion, vous connaissez sans doute ce grand artiste américain qui s'est illustré dans sa première collaboration avec les archéologues à la Tate Modern à Londres. Il avait fait un travail remarquable dans la Tamise. Ce même Mark Dion est venu en résidence, passé plusieurs semaines. Et il a lui-même, là vous le voyez, il fait un peu la grimace parce qu'il s'apprête à plonger dans le Rhône. Donc à sa place, effectivement, je faisais aussi la grimace. Et voilà donc aussi le regard d'un artiste qui, évidemment, propose une autre vision que je vous dévoilerai rapidement tout à l'heure. Donc, dans la mise en œuvre, le point fort de cette exposition, la richesse du sujet, vous l'avez compris, l'accès aisé aux collections, nous ne sommes pas tributaires de prêteurs. Nous avons nos objets en réserve. Donc nous allons faire notre marché. Et puis, les listes d'œuvres évoluent au fur et à mesure de nos goûts, de nos découvertes, de nos humeurs et des calendriers de restauration qui sont plus ou moins maîtrisés. Voilà. Les difficultés sont l'arrivée tardive de certains objets, a contrario, et puis des interprétations. Évidemment, certains objets très spectaculaires, très intéressants, qu'il était très tentant de présenter, sont sortis à peine un mois avant l'ouverture de l'exposition. Que faire ? Le présenter et à ce moment-là en faire profiter un maximum de public, quitte à être très au clair sur les conditions d'interprétation et de connaissance de ces objets, qui étaient assez mauvaises. En un mois, on ne peut pas produire un dossier scientifique sur une œuvre. Le parti a été d'être honnête avec notre public et de présenter un maximum d'objets en développant dans l'exposition un appareil critique pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Donc le plan de l'exposition, finalement, c'est l'agence Salus que nous avions rencontré hier avec le Caravage à Montpellier, qui a été donc le maître d'œuvre de cette exposition et qui a déroulé un propos sur un mode que nous souhaitions très pédagogique, à savoir plusieurs séquences qui commencent en mer avec les fouilles des épaves au Sainte-Marie-de-la-Mer, et puis une remontée progressive dans le fleuve jusqu'à arriver dans la ville et dans la monumentalité de la ville d'Arles. Et c'est là que les objets d'architecture et les objets décoratifs étaient présentés. Un parcours donc de la mer au fleuve, pédagogique, et qui avait quand même une dimension propice au rêve, à l'imagination, au voyage, donc avec une dimension un peu immersive tout de même. Donc le recours également à des illustrations qui permettaient, donc nous avons sollicité des collègues archéologues aquarellistes, Jean-Claude Golvin, Jean-Marie Gassin, qui sont connus par les archéologues bien sûr pour la qualité et la véracité de leur reproduction, et ces images ponctuaient ainsi le parcours de visite pour donner du corps, pour donner une âme aussi à ces objets sur un parcours qui était un parcours de l'ordre de 800 mètres carrés pour près de 300 objets. Donc nous sommes là face à l'introduction et nous présentions dans cette exposition, naturelle, dans cette introduction, la question des embouchures et ce qu'il se passait, ce qu'il se jouait commercialement dans l'Antiquité aux embouchures du Rhône. Il y avait plusieurs éléments du fleuve qui étaient là sur un littoral et nous évoquions les questions de géomorphologie, etc. Donc cette première séquence était assez légère, permettait d'évoquer plutôt l'origine des découvertes. Vous voyez par exemple sur la partie droite de l'image une concrétion que le Drasme nous avait prêtée quelques semaines avant même l'ouverture de l'exposition. Vous remarquez également une sorte de petit téléviseur. C'est un cartel numérique où nous avions des séquences subaquatiques. On réalise depuis des années beaucoup de films avec les archéologues. Et donc nous avions un stock extraordinaire d'images subaquatiques et l'exposition ainsi dévoilée à des endroits précis une dizaine de petites séquences pour ne jamais oublier que ces objets proviennent de la mer, proviennent du fleuve. Un espace un peu immersif, on proposait une plongée dans le fleuve pour faire toucher du doigt ce que pouvait être la puissance stratigraphique du fleuve à Arles. Donc plusieurs mètres d'objets archéologiques recouverts de limon. Et donc, le public traversait un espace qui était un décor, mais avec d'authentiques objets. Et il arrivait donc dans cette salle assez ouverte qui déclinait en plusieurs thèmes eh bien, le dépotoir de la vie quotidienne, l'organisation du commerce, avec ici par exemple les inscriptions de ces corporations qui organisaient le trafic sur le fleuve, ou encore ce bas-relief célèbre des emballeurs. La question du commerce était regroupée par provenance, c'était un mode qui nous avait semblé correct pour montrer cette profusion, hein. Vous voyez, cette exposition montre la profusion, puisque comme le signalait, je crois, Marie-Hélène Joly tout à l'heure, il nous a semblé que les accumulations pouvaient être également porteuses de sens, et pour montrer à quel point l'Espagne et le Portugal commerçaient fortement avec Arles dans l'Antiquité, enfin avec la vallée du Rhône dans l'Antiquité, il était important d'accumuler là les amphores qui transportaient ces produits. Je passe rapidement et j'oublie bien entendu des séquences. La question de la navigation, bien entendu, n'était pas oubliée. Vous voyez là, par exemple, une extraordinaire verge d'encre monumentale, près de 5 mètres, au moment de sa découverte, lorsqu'elle s'apprête à partir dans les ateliers d'arc nucléaire, et puis une fois soclée dans l'exposition. Donc, ces petits films nous permettaient à chaque fois de rappeler ces métiers, nous rappeler ces contextes de découverte, car nous étions presque dans le temps du journalisme avec cette exposition. Et donc, nous avions là cette envie de raccourcir au maximum le délai entre le moment où l'objet est découvert et le moment où nous le mettons à la disposition du public. Et puis, il y avait, je passe sur une séquence qui abordait la monumentalité de la ville, avec une grande restitution d'Arles par Jean-Claude Golvin, où là nous avions regroupé les objets qui traduisent finalement la richesse de cette ville, une richesse que l'on comprend bien venant du fleuve, et cette richesse s'exprime dans la qualité des décors, dans la qualité des objets qui devaient figurer dans la vaisselle aristocratique des élites arlésiennes. Donc dans une salle, vous voyez, on change d'ambiance, on fait un petit peu un pas en arrière en matière de pédagogie, et là c'est plutôt un lieu un peu d'immersion, où un fleuve est symbolisé par ce grand socle central qui coupait la salle en deux, et il y avait sur ce socle des objets qui perçaient un petit peu la surface du sol dans une ambiance tout à fait singulière. Et l'objet vedette de l'exposition, même si vous avez compris qu'on n'en avait pas non plus fait des tonnes autour, on avait voulu volontairement rappeler que le portrait attribué à Jules César eh bien, est un élément qui provient d'une opération archéologique d'ensemble, même si il avait droit, évidemment, cet objet exceptionnel à un traitement de faveur du point de vue de la scénographie. Et puis Marc Dayon, je vous le situe, hein, Marc Dayon, vous le voyez sur ces images, c'est un artiste qui s'intéresse au travail des scientifiques et qui joue lui-même les scientifiques. Et là, il a voulu jouer aux archéologues avec nous, et donc c'est ainsi qu'il est allé plonger pour se rendre compte de lui-même de ce qu'il pouvait bien se passer dans ce fleuve. Ce fleuve, alors rassurez-vous, ce ne sont pas des images d'actualité à Arles, hein. Vous ne trouverez plus ces carcasses de bagnoles, mais dans les années 60, jusqu'aux années 70, eh bien, ce fleuve dépotoir pouvait présenter ce type d'image. Donc c'est une documentation que nous avons communiquée à Marc Dayon, et puis, chemin faisant, il a créé des espaces qui miment finalement le cadre des fouilles archéologiques. Il a ici miniaturisé une sorte de réserve archéologique et fait son espace d'exposition dans un cabinet de curiosité. Donc ce regard avec aujourd'hui et ce cabinet de curiosité comportait des objets antiques, comportait des vestiges de téléphones portables, comme il se doit, le fleuve étant une poubelle qui n'a jamais été vidée ni triée. Pour conserver la mémoire de l'exposition, je vous invite à... Je n'ai pas le temps là de vous la présenter, mais nous avons fait une numérisation complète de l'exposition et vous pouvez vous balader virtuellement dans les photographies panoramiques à 360 degrés et vous cliquez sur tous les objets de l'exposition et tous les cartels vous arrivent. Et vous pouvez également accéder à l'ensemble des vidéos qui étaient présentées dans cette exposition. Donc allez sur notre site internet. S'il me reste une minute à la fin, je pourrais vous faire une démonstration, mais c'est une discussion que nous avons eue hier, donc il me semblait important de vous le rappeler. Et puis, je vais être beaucoup plus bref sur le deuxième exemple. J'ai encore 5 minutes. C'est bon. Le deuxième exemple, alors là, c'est autre chose. Je vais vous parler d'une exposition beaucoup plus modeste, mais je vais surtout vous parler de la façon dont une exposition peut être aussi une déclinaison, est un objet de médiation qui a sa place au même titre que d'autres formes de médiation de l'archéologie. Et le cadre général, c'est celui d'une opération scientifique de grande ampleur sur laquelle Claude reviendra juste après moi, qui est cette opération Arlron 3. Arlron 3 étant le nom de code, en quelque sorte, la désignation de cette épave découverte en 2004 dans le fleuve, et qui est, je vous en montre une image, qui est un chaland fluvial, une sorte de péniche, si vous voulez, de 31 mètres de long, et qui a été découverte. Et depuis, ce bateau, qui est quasiment complet, a été extrait des limons du fleuve dans le cadre d'une opération fort importante. Donc, pour vous montrer que nous avons quand même beaucoup de chance aussi avec un musée qui est situé à proximité du fleuve et une zone de fouille qui est quasiment en face, sous nos fenêtres. Donc, vous voyez, les allers-retours en bateau pour amener les objets au musée sont des choses relativement aisées. Et le côté temps réel, en prise directe avec la réalité d'un chantier, eh bien là, cette image, je pense, vous le montre. Donc, la gestion des objets dans cette opération, c'est quelque chose qu'on a voulu partager avec le public, parce que ce n'est pas une opération normale. On est dans quand même une opération exceptionnelle qui a mobilisé des moyens financiers, public et privé, exceptionnel. Donc les formes de la diffusion, nous avons réalisé une exposition dossier au musée, donc vous voyez une ambiance un peu scientifique dans cette exposition, qui avait pour seul et unique objet d'étude cette épave, sa cargaison et le dépotoir archéologique qui l'entoure. Cette exposition a donné lieu à une version de plein air pour que le public se rendant sur les zones de fouilles puisse quand même accéder à des textes. Toutes les semaines, pendant plusieurs mois, nous avons organisé des rencontres avec le public pour qu'il puisse partager avec nous les découvertes au fur et à mesure qu'elles se faisaient. Vous avez en bas cet extraordinaire lustre antique, découvert et à peine découvert, présenté à nos publics. Des scolaires, entre autres, ont pu accéder au chantier pour voir le bateau au moment de sa sortie. Et en partenariat avec VNF, nous avons nous-mêmes pu bénéficier d'un bateau pour nous rendre régulièrement sur les zones de fouilles et aborder le sujet depuis le fleuve. Et puis comme les archéologues aiment bien faire la fête, on a invité aussi des vignerons qui nous ont permis d'organiser des conférences de plein air et des projections, des films, dans une optique de démocratisation aussi, considérant qu'il y avait peut-être plus d'amateurs de vin que d'archéologie chez nous.
Je me suis opposé au nom Ron Movie Party, mais il paraît que j'étais un vieux croulant, donc les jeunes de l'équipe me l'ont imposé.
Yes, sir. Et évidemment, un site web est dédié à la... Un site internet est dédié à cette opération Arlron 3. Je vous invite à vous y rendre. Vous pourrez voir toutes les vidéos. Donc voilà. C'était pour vous dire que là, dans le cas de cette exposition Arlron 3, on est dans un schéma un peu différent de la grande exposition patrimoniale César. On est dans des actions de médiation qui, une fois rassemblées, constituent aussi une stratégie de préparation de nos publics à un grand événement qui est en train de se préparer, de s'achever même, puisqu'en octobre 2013, nous allons ouvrir une extension dans notre musée.
Donc je vais vous présenter ça. Donc Fabrice vous a montré le travail qui a été fait avec les publics sur le terrain. Ça marche ? C'était assez amusant parce que les gens qui venaient sur le site, nous avions des caméras sous-marines, on n'a pas pu vous le montrer parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais nous avions des caméras sous-marines qui équipaient les archéologues. Et au fur et à mesure que les archéologues trouvaient des objets, eh bien, c'était filmé. Et les gens étaient absolument persuadés que c'était du faux. Et quand ils voyaient sortir l'archéologue tout mouillé avec l'objet dans la main, les gens étaient persuadés qu'on avait fait un film, quoi. On avait fait du faux. Et c'était la vérité. C'est-à-dire que ce fleuve est tellement riche qu'au fur et à mesure que les objets trouvaient, c'était une vraie fouille, simplement donnée au public en temps réel. Et c'est vrai que la première séance, si je puis dire, le premier rendez-vous, il y a eu, je ne sais plus combien, 50, 60 personnes. Ensuite, on s'est arrêté à 400. On ne savait plus comment faire. parce qu'on avait 4, 5, 6 écrans de télévision avec du direct, et puis on ne pouvait plus tenir, quoi. C'était un moment, ça nous a dépassé. Mais bon, c'est bien pour ça. Alors, une image de ce bateau Arleron III, hein, donc vous voyez le type de péniche dont il s'agit, c'est une péniche de l'époque de Néron. Et si on vous a parlé de cette médiation, donc de cette péniche, et surtout maintenant de cette extension, alors on est un petit peu hors sujet parce qu'on parlait d'exposer l'archéologie en tant qu'exposition temporaire, là ça va être une exposition permanente, mais elle découle directement de ce travail qui a été fait, dont Fabrice vous a parlé, mais elle découle aussi directement de l'exposition que vous avez vue tout à l'heure, l'exposition donc César, le Rhône pour mémoire. Comment est-ce que ça découle? Eh bien, parce que ce projet de faire cette extension avec ce bateau que l'on avait repéré, ce sont les équipes de Luclon et le Drasme qui avaient repéré les premiers cette barge, puis ensuite elle a été fouillée par les équipes du musée, notamment par Sabrina Marlier. Eh bien, le projet de rendre au public cette barge qui est exceptionnelle, c'est le bateau le plus ancien qui soit complet au monde. On a un bateau de 30 mètres de long, 3 mètres de large, dont on a le mât, dont on a la pelle de gouverne, dont on a la cargaison, dont on a la cuisine des marins. On a les appareaux, hein, les cordages, on a les poulies, on a tout. Et c'est exceptionnel, bien évidemment. Donc, quand j'avais vendu, hein, entre guillemets, l'idée aux élus, eh bien, un petit calcul avait été fait. On avait vu que c'était un budget de l'ordre de 9 millions d'euros pour la fouille, la restauration et la présentation au public. Et puis, on m'avait fort aimablement, avec beaucoup de courtoisie, demandé d'aller voir ailleurs. Mais lorsqu'on a eu cette exposition César le Rhône pour mémoire, eh bien, alors on est entre nous, si je vous parle de fréquentation, ce n'est pas pour faire le malin, mais c'est simplement parce que ça a compté. Eh bien, quand on a eu cette exposition, on a reçu 400 000 visiteurs. Donc, 400 000 visiteurs pour montrer des vieux pots dans une ville de 50 000 habitants, alors que c'est plutôt des scores d'exposition impressionniste à Paris, eh bien, ça a touché les élus. Et là, ils se sont dit qu'il y avait un enjeu. Et ce qui était auparavant regardé comme un peu un caprice d'archéologue, c'est rentré tout de suite dans l'exécutif comme une bonne image, un intérêt économique. Le maire d'Arles, je peux vous dire, nous a bénis. Parce que pendant plus d'un an, eh bien, tous les commerçants faisaient le plein, les commerçants qui touchent au tourisme naturellement, faisaient le plein, etc. Et donc, ils en ont redemandé à plusieurs reprises. Tu veux intervenir, Fabrice? On a... interromps-moi hein, si je dis des choses. Voilà. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, les 5-6 minutes qui me restent, je vais juste vous montrer ce projet. Alors, le projet, c'est un projet complètement fou. On a parlé de décision, on a parlé de marché public, etc. Sachez que ce projet a été décidé politiquement en 2010, avec pour obligation une ouverture en octobre 2013 pour pouvoir rentrer dans la plaque de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Avec un musée qui n'était pas encore agrandi, des projets architecturaux qui n'étaient pas faits, un programme scientifique et un programme muséographique qui n'était pas encore mis au point, un bateau qui n'avait pas encore été sorti de l'eau, d'accord, etc. Et évidemment, le bateau encore moins restauré puisqu'il n'était pas sorti de l'eau, etc. Donc, le jour où les élus ont dit « Ok, allez-y, mais il faut que ça soit ouvert pour 2013 », je vous jure, ce jour-là, je me suis dit « Ça ne marche pas, je vais être muté au musée de la Morue, au Kerguelen ou quelque chose comme ça ». Donc, c'était un peu embêtant quand même. Donc, la décision politique 2010, le projet architectural a été fait en 2010-2011. Les appels d'offres, les fameux appels d'offres dont on parle à chaque fois, en 2011, pendant que les fouilles se faisaient. Puis, la construction a pu être faite en 2012. Tous les appels d'offres ont été fructueux. Toutes les équipes, y compris les équipes juridiques, qui sont habituellement les méchants, tout le monde a voulu que ce projet marche. Donc, tout le monde y a mis de l'huile de coude, comme on dit. La restauration se passe en 2012 et en ce moment même en 2013. Le bâtiment nous a été livré tout début 2013, en janvier. L'installation du bateau va démarrer en juin 2013 et, si tout va bien, l'ouverture au public le 4 octobre 2013. Alors, quelques images de ce projet. Voilà le projet que les architectes avaient proposé donc avec l'extension du musée à cet endroit, donc une aile nouvelle. Le projet, je vous montre un crowbar, hein, mais après il y a d'autres choses. Le projet, c'était de présenter cette barge donc de 30 mètres de long dans une fosse au centre de l'extension, puis d'évoquer la navigation, le commerce, Fabrice vous en a dit quelques mots à l'instant, le port antique et ses métiers, tout ça avec des objets qui proviennent des collections permanentes ou des collections qui viennent d'arriver et qui continuent à arriver et d'illustrer le propos au fur et à mesure des fouilles. Alors voilà une image de synthèse qui va vous donner un peu mieux l'idée de ce bateau lorsqu'il sera terminé. Vous voyez, on a trouvé le mât, hein, un mât de halage. Vous avez tous les éléments en place, le mât, etc. On a la cargaison qui est une cargaison de pierre que l'on va restituer en copie, bien sûr. On ne va pas mettre des pierres. Il y a 27 tonnes de pierres qu'il a fallu enlever à la main, une par une, pendant la fouille. Rien que ça. Hein. Puis ensuite, il a fallu couper le bateau en morceaux de 3 mètres et monter chaque morceau de 3 mètres pour pouvoir le démonter à terre et pour pouvoir l'envoyer fragment par fragment à Grenoble où il était en cours de restauration. Bon, on vous a pas, on n'a pas voulu la faire longue parce que notre temps est quand même limité, mais sachez que ça n'a pas été simple, d'autant plus que personne n'avait jamais fait dans ces conditions. Donc voilà le bateau. Notez ce petit élément-là, c'est un four, un fond d'olium pour les archéologues, hein, donc un fond de vase en terre pour que les marins puissent faire leur cuisine. Et puis on a la grande pelle de gouverne qui est là. Donc quelques images de ce que l'architecte nous avait donné pour la présentation. Hein, vous voyez donc la navigation avec toute une série d'objets que l'on a là. Des objets comme ceci, voilà une poulie de ce bateau avec encore son réa en place, avec son estrope en place. Ce sont des objets qu'on ne trouve pas habituellement. Tout ça étant daté naturellement de l'époque de Néron, hein, comme le reste du bateau. On a des maquettes qui vont être présentées pour évoquer d'autres cas de navigation que nous ne pourrons pas évoquer par des objets. Les courants commerciaux, Fabrice vous l'a montré à l'instant, donc inutile que j'en parle, où chaque objet va rejoindre sa zone, hein, l'Orient, l'Afrique, la Gaule, etc. Les objets qui sont de belles pièces pour certains d'entre eux, hein, qui vont évoquer le commerce, par exemple, avec la compagnie pour cet objet-là. Puis le port antique avec les marins, avec l'évocation de l'administration portuaire, avec l'évocation des métiers. Et regardez par exemple un des maillets de calfateur qui a été trouvé. On a parlé au cours de la journée de ces émotions qui pouvaient être données par des objets aussi modestes que des registres de 1960 ou de vieilles photographies. Eh bien, c'est pareil. Voilà un maillet de calfateur. Alors, c'est pas un caravage, c'est clair, mais en même temps, c'est quand même intéressant. Donc, on a la possibilité d'imaginer tout de suite l'ouvrier qui tapait sur son bordé pour faire rentrer les toupes et puis pour pouvoir montrer un peu tout ça. Alors, dans les 3 minutes qui me restent pour respecter le temps, voilà le travail des restaurateurs. Donc, les morceaux de bateaux, vous voyez les morceaux de bateaux là, qui ont été envoyés à Grenoble à Arc Nucléaire. Hein, il y a des élèves restaurateurs parmi vous, ils doivent certainement connaître Arc Nucléaire. Eh bien, les morceaux de bateaux ont été mis dans des piscines remplies de polyéthylène glycol. Puis, ces polyéthylène glycol, une fois bien imbibés à l'intérieur des bois, on a bombarder les objets au rayon gamma, hein, vous voyez les gens en train de les mettre dans des cuves là, pour pouvoir procéder à une sorte de polymérisation. Et puis les objets ont été ensuite lyophilisés pour que toute l'eau qui soit contenue à l'intérieur du bois puisse s'échapper et qu'on ait des conditions de présentation qui soient correctes, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de faire, comme c'était le cas avant, des cloches en verre autour d'objets aussi grands qu'un bateau dont je rappelle les mesures, 30 mètres de long sur 3 mètres de large. Voilà la proue du bateau qui sort de restauration. Hein. Bon, alors, les spécialistes apprécieront l'armature en métal, les éléments d'accastillage, comme cette estrope ici qui doit passer, etc., etc. Enfin, comme je vous l'ai dit, ce projet, miraculeusement, est pour l'instant dans les temps. Donc, pour moi, les Kerguelen s'éloignent. Du coup, voilà ici le... Tu voudrais que j'y parte, c'est ça, pour la place ? Bon. Voilà ici, non plus l'image de synthèse, mais la réalisation de cette aile. Et puis à l'intérieur, c'est une image pour Gennaro, parce que nous avons fait venir spécialement d'Italie des stuckers et des gens qui étaient capables de faire de la fresque. Et les Italiens sont les meilleurs sur le marché, donc ces jeunes gens ont pu nous faire ce genre de choses. Et voilà donc l'extension qui commence à être finie avec l'installation des vitrines, etc. Hein, vous voyez un peu le projet qui a bien avancé. Voilà quelques images pour cela. Donc la grande fosse centrale où, dans cette fosse centrale, eh bien, va venir cet énorme 30 mètres de long, donc socle en métal, qui a été fait spécialement pour le bateau et qui est fait non pas à Arles, mais à Grenoble, pour pouvoir répondre très exactement à chaque irrégularité des bouts de bois du bateau. Et voilà, le bateau qui commence à être installé sur son socle. Vous voyez ici, voilà les bordées qui commencent à être installées. Et voilà les restaurateurs qui sont en train de travailler sur la difficulté que l'on peut avoir à remettre des milliers de morceaux de bois qui sont arrivés. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure, ce petit fond de dolium qui était la cuisine des marins et que vous revoyez ici. Voilà cette dernière image, c'est l'image d'il y a une semaine, une réunion de travail autour du bateau, parce qu'il y a quelques petites parties manquantes que l'on va compléter. Et donc ça fait plaisir de voir le ferronnier qui est en train de discuter avec l'ébéniste, en train de discuter avec les restaurateurs d'arc nucléaire, Bernard-Henri Maugiron, nos copains, mon collègue Charon, le conservateur, là, qui est en train de voir comment il faudra présenter les objets, comment on va pouvoir protéger les objets, parce qu'on a plein d'objets à l'intérieur de ce bateau, notamment toute la vaisselle de ces marins qui sont marqués avec leur nom. Ceux qui étaient analphabètes ont dessiné des petits poissons, et puis ceux qui étaient lettrés, ils n'avaient sans doute qu'une seule lettre, ils l'ont marqué, le A de leur nom ou le B de leur nom, etc. Et du coup, ça va poser des problèmes. Et puis le pauvre directeur au milieu qui est en train de se dire « pourvu qu'il n'y ait pas d'avenant, pourvu qu'il n'y ait pas d'avenant ». Voilà, donc on en a terminé juste dans les temps.